Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet, à la une des pompiers appelés à la grève pour demander plus de moyens.
Mobilisés contre les flammes partout en France, cet été, ils alertent sur leurs conditions de travail. Des syndicats reçus au ministère de l'Intérieur à midi. Le pic de la chaleur aujourd'hui et ces canicules à répétition pourraient coûter jusqu'à 15 milliards d'euros à la France, chiffre le gouvernement. Et puis Lionel Messi va-t-il raccrocher les crampons? L'Argentin se pose la question après le décès de son père.
Un appel à la grève chez les pompiers en pleine saison des incendies.
Des feux d'une ampleur jamais vue en France et des pompiers à bout de souffle. Ils veulent alerter aujourd'hui sur leurs conditions de travail et leurs difficultés. 9 syndicats appellent donc à la grève pour demander plus de moyens et pour que leur santé et leur sécurité deviennent une priorité nationale. Leurs représentants reçus à midi au ministère de l'Intérieur et en Gironde, frappés par un gigantesque incendie, les pompiers se sont confiés au micro RMC de Julie Brault sur leur mal-être.
Les images des flammes monstrueuses sont encore dans sa mémoire.
On a vécu une chose qui est hors norme. Certaines images de se sentir un petit peu impuissant.
Franck a été mobilisé sur le front au premier jour du méga-feu dans un camion non adapté aux feux de forêt.
C'est ce qui sert à éteindre les feux d'appartements, feux de maison. Ces camions-là, après quand on remonte dedans, même si on coupe toutes les ventilations, admettons, mais les cabines sont quand même enfumées. Donc on reste quand même dans un milieu enfumé. Donc c'est difficile de pouvoir respirer correctement.
Un manque de moyens matériels, humains aussi, très handicapants sur le terrain et qui a dû être compensé par les citoyens, rappelle le sapeur-pompier Guillaume Millet.
Quand on fait venir des citernes d'agriculteurs pour arroser les lisières, c'est que clairement on est en rupture capacitaire de nos propres moyens, des moyens de sapeurs-pompiers.
Un système à bout de souffle, selon le secrétaire général de la CFDT qui fera face ce midi à Laurent Nunez.
Ça fait 10 ans qu'on est dans leur bureau. Moi j'en suis à mon 5e ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui, ils sont obligés de nous entendre. On a perdu 4 collègues, dont 2 ici en Gironde. C'est un bilan qui est catastrophique.
On ne veut plus de mots, mais des lois et des décrets pour embaucher dans les casernes et financer des équipements adaptés, conclut le sapeur-pompier.
La colère, le ras-le-bol, la souffrance des sapeurs-pompiers, nous en parlerons à 8h45 avec notre invité, le lieutenant-colonel Alain Larata, secrétaire général du syndicat Avenir Secours.
Des pompiers mobilisés sur de nouveaux incendies depuis hier dans le Pas-de-Calais. Les flammes ont ravagé 180 hectares dans les dunes de la Côte d'Opale. Feu contenu à Dannes, mais toujours en cours hier soir près d'Ardelot. 1200 vacanciers ont pu retrouver leur camping après évacuation. Un autre incendie au sud de Rennes, en Bretagne. Feu de forêt qui a parcouru 200 hectares. Au niveau de la commune de Saint-Just, une centaine de personnes évacuées. Et dans les Deux-Sèvres, près de Poitiers, les flammes parties d'un champ ont brûlé une maison dans le village de Loumois. 3 corps calcinés ont été retrouvés. Enquête ouverte pour homicide involontaire.
On entre dans le dur. Le pic de chaleur commence véritablement aujourd'hui.
Et ça va continuer demain. 2 jours durant lesquels 80 départements sont en vigilance orange canicule. Toutes les régions sont en crise au niveau de la sécheresse, alerte la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, après une réunion hier avec les préfets. Romain Cluzel, elle appelle à plus de fermeté sur les restrictions d'eau.
Exactement, Monique Barbu insiste auprès des préfets. Les restrictions d'eau doivent être appliquées sans délai et avec uniquement de rares dérogations. Les contrôles doivent d'ailleurs augmenter dans les zones où l'alimentation en eau potable est la plus tendue. Une fermeté affichée par la ministre face à une sécheresse déjà historique. Toute la France est touchée et 3 millions d'habitants sont placés en vigilance concernant l'approvisionnement en eau. Et les conséquences se multiplient auprès des agriculteurs, de certaines industries. Monique Barbu estime d'ores et déjà que cet été caniculaire va coûter entre 10 et 15 milliards d'euros. La ministre de la Transition écologique souhaite également accélérer sur l'adaptation du pays. En privé, elle dit même s'interroger sur l'intérêt d'installer des usines de dessalement de l'eau de mer pour faire face à des sécheresses dans le futur.
La sécheresse record que nous connaissons actuellement, est-ce que vous, de votre côté, vous faites des efforts, vous faites attention? Vous nous appelez au 3216 et puis je reviens sur les sapeurs-pompiers, leur colère, leur ras-le-bol, leur grève nationale aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cette colère? Est-ce que vous les soutenez là? Encore, vous nous appelez au 3216.
Une question à présent, des élus ont-ils bénéficié d'emplois fictifs à la RATP? C'est le soupçon de l'association AC Anticorruption qui porte plainte contre X. Inès Zegloul en direct avec nous. Inès, la régie des transports parisiens et 200 élus sont accusés de faire partie d'un système.
Oui, pas de présence, parfois aucune fiche de poste identifiable, mais bien des temps pleins rémunérés, s'interroge l'association Anticorruption qui base sa plainte sur plusieurs plusieurs articles de nos confrères, parmi eux celui du Canard enchaîné, affirmant, vous l'avez dit, que 200 élus auraient bénéficié de ce système, d'un emploi à temps plein à la RATP, des élus de région parisienne, tous bords politiques confondus. Démenti formel de l'Association des transports en commun d'Île-de-France, la RATP qui conteste aucun emploi de complaisance au sein de l'entreprise, martèle-t-elle avant d'ajouter « Nous suivons les règles qui permettent à un élu de concilier vie professionnelle et mandat local ». C'est désormais Valérie Pécresse qui demande des comptes. La présidente de la région d'Île-de-France exige que toute transparence soit faite sur la politique de recrutement de la RATP.
Explication d'Inès Zegloul.
C'est un salon qui fait polémique en Savoie.
Le salon du tout-terrain prévu à Valoir à la fin du mois. 5 jours pour promouvoir les loisirs motorisés des 4x4 qui vont sillonner la montagne. Activité jugée scandaleuse par 4 associations qui demandent, Vincent Chevalier, l'annulation du salon.
Une lettre ouverte pour interpeller directement la nouvelle municipalité de Valoir.
On demande la fin de ce salon, la fin de cette animation.
Martine Noraz, présidente de l'association Vivre et Agir en Maurienne.
On ne peut plus promouvoir ce type de véhicule énergivore qui permet d'aller partout dans la nature et qui par conséquent dérange la faune, abîme la flore, etc.
Sans compter la pollution sonore et atmosphérique selon ces associations. Un salon surtout composé de stands, d'après Benjamin Serve, l'un des organisateurs.
Mais la partie balades, c'est même pas 5% du salon. C'est quelques balades encadrées dans la montagne.
Au total, une 50aine de véhicules arpenteront la montagne chaque jour sur des chemins balisés.
C'est uniquement des pistes qui existent, qui sont déjà utilisées par Valoir et la société d'exploitation des remontées mécaniques de Valoir. C'est-à-dire qu'on utilise uniquement des pistes qui sont utilisables, carrossées, on ne s'écarte jamais des pistes.
Si cette 24e édition devrait se dérouler normalement, une réunion de concertation avec les autorités et l'organisation a été demandé par ces associations pour les futurs salons.
Pas de 4x4 à la montagne. Là encore, vous êtes d'accord, pas d'accord, vous nous appelez au 3216.
Dans le massif du Jura, il y aura bientôt de nouveaux panneaux. Attention aux lynx, comme pour les chevreuils, comme pour les vaches. Mais donc, cette fois, pour faire attention à la traversée des lynx, c'est les autorités qui l'ont annoncé. Il y aurait environ 200 lynx en France, 80% dans le massif du Jura. Le jour d'après l'éclipse, et si le spectacle était pour beaucoup aussi exceptionnel que rare, il vous a peut-être fait mal aux yeux. Les recherches Google mal aux yeux ont bondi de 5000% cette nuit. Alors, on ne sait pas vraiment si ces inquiets ont porté leur lunettes. Oui, en tout cas, il y a de l'inquiétude ce matin.
Il y a beaucoup aussi d'effets psychosomatiques, je pense. Les sports et la saison démarrent plutôt bien pour le PSG.
Mais qui remporte pour la deuxième saison de suite la Super Coupe d'Europe. Victoire 2 buts à 1 hier soir en Autriche contre Aston Villa. De quoi donner encore plus faim de trophée au capitaine Marquinhos.
On a des records à aller chercher. C'est vrai que dans la carrière, il y a des trophées qui marquaient plus. Mais quand on voit après les numéros de trophées qui ont gagné, ça reste dans ma histoire, ça reste dans l'histoire du club. Ça montre les ambitions de ce club, ça montre les ambitions des joueurs qui sont là. Même si on n'a pas eu beaucoup d'entraînement, on est arrivé aujourd'hui, on a su surmonter les difficultés. Et ça fait vraiment plaisir de démarrer cette saison avec un trophée très important international comme ça.
Et beau cadeau d'anniversaire pour le PSG, puisque Arthur Asquin, notre rédacteur en chef qui est fan du PSG, nous dit que le PSG est né le 12 août 1970.
Ah bah tiens, bon anniversaire, un bon cadeau. Une légende du foot peut-être bientôt à la retraite. Beaucoup de doutes ce matin autour de Lionel Messi, l'Argentin de 39 ans, s'est exprimé sur ses réseaux sociaux quelques jours après la mort de son père des suites d'une longue maladie. Et il semble se poser beaucoup de questions, Corentin Roland.
Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi, je ne sais pas comment continuer, écrit Lionel Messi dans un message publié sur Instagram. Les mots sont adressés à son père, Jorge Messi, mort d'une maladie samedi dernier. Je ne faisais que jouer au football, poursuit l'octuple Ballon d'Or. Maintenant, j'ai pas mal de doutes sur le fait de continuer longtemps. À la fois son père et son conseiller, durant sa carrière, Jorge Messi a accompagné son fils Léo dès ses 13 ans de l'Argentine vers Barcelone. Tu as été à mes côtés depuis le début, il manquait si peu pour arriver au bout, regrette le joueur de 39 ans dans sa lettre. Jorge Messi n'a pas assisté à la Coupe du Monde cet été. Le capitaine argentin confie avoir souffert de son absence lors de la finale perdue face à l'Espagne, à l'issue de laquelle il n'a livré aucun indice sur une éventuelle retraite. Messi est sous contrat jusqu'en 2028 avec l'Inter Miami, mais n'a pas communiqué de date de retour.
Et puis de l'athlétisme au programme aujourd'hui, finale du saut à la perche chez les femmes au championnat d'Europe. Un programme aussi alléchant à ceux de natation, notamment la finale du 100 mètres papillon avec Maxime Grousset, le champion du double champion du monde de la discipline. Ce sera à vivre évidemment sur RMC, la finale du 100 mètres à 18h30.
Merci beaucoup Clara, et prochain rendez-vous pour le prochain journal, ce sera à 8h30. Thierry est avec nous au 32-16. Bonjour Thierry.
Et bonjour Rémi, très heureux d'échanger avec vous.
C'est réciproque Thierry, on est en Charente à la Rochefoucauld.
Exactement.
Vous faites quoi dans la vie Thierry ?
Gestionnaire de site internet.
D'accord. Et vous êtes passé à l'électrique, deux véhicules ?
Ouais.
Et achetés d'occasion ?
Ouais, et à la base je suis un anti-électrique, je voulais même pas en entendre parler.
On en parle parce que tout à l'heure Pierre Rondeau nous disait qu'il y a une nouvelle prime qui vient d'être mise en place,
337 euros
pour l'achat d'un véhicule d'occasion. Vous nous dites qu'au départ vous étiez pas du tout électrique.
Ah non, puis je voulais même pas en entendre parler. Moi, la blague c'était de dire j'ai pas de rallonge assez longue pour me balader en voiture électrique, quoi.
Bon bah vous avez trouvé la rallonge apparemment.
Ouais, et en fait pour les voitures électriques, on a acheté deux véhicules et en plus ils sont tous les deux de 2022, donc ils ont 4 ans, très peu kilométrés, c'est des retours de loc. Mmh. Et on a payé, et pour vous dire, alors, pour rien cacher, les deux voitures achats cumulés, j'en ai pour 26 000 euros. Une Citadine et une berline.
D'accord. Soyons concrets, la Citadine, par exemple, vous l'avez payée combien ?
7 500 euros.
Elle avait combien de kilomètres ?
17 000 kilomètres.
Ah, c'est rien.
Et Rémi, une chose très importante, elle avait ce qu'on appelle le SOH, c'est-à-dire la vitalité de la batterie, à 100%. Oui.
Parce que c'est ça le gros doute, la grosse question, la grosse crainte de ceux qui hésitent à passer à l'électrique d'occasion, c'est de dire, ouais, mais dans quel état est la batterie?
Non, il y a le SOH qui est très important.
Alors, le SOH, c'est quoi? C'est une garantie, on contrôle la batterie?
Voilà, c'est la batterie qui est contrôlée par le constructeur et qui donne la vitalité de la batterie. Donc là, elle est à 100%, c'est-à-dire qu'elle a sa totale capacité.
Et en prime, vous êtes garanti, j'imagine?
On est garanti pendant 7 ans sur la batterie.
Donc, ouais,
jusqu'en 2029, je suis tranquille. Et puis, pour répondre à Pierre, si je peux me permettre, vous pensez bien que je me suis renseigné sur le prix des batteries. Je me dis, tiens, si demain la batterie elle lâche, combien ça va me coûter? Et bien, sur la petite Citadine, ça me coûtera en échange standard 2500 euros.
Oui, les 15 000 euros cités, c'était pour les très grosses voitures.
Voilà. Mmh. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une société française, en plus, qui vient juste d'être créée, qui est capable de localiser l'élément défectueux d'une batterie, ce qui permettrait de changer seulement l'élément défectueux et non pas une batterie complète. Donc, on aurait des
réparations. Thierry, pas de regrets.
Ah non, et puis comme je pense 99% de ceux qui sont passés en électrique, on reviendra pas en arrière.
C'est ce qu'on entend très souvent, ça c'est vrai. Ouais, merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous et belle journée du côté de la Rochefoucauld en Charente, RMC, il est
8h13. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
En pleine sécheresse, 80% d'un bassin communal vidé en 2 heures pour arroser 2 jardins privés. Voilà ce qui s'est passé aux Tourettes-sur-Loup. On est dans les Alpes-Maritimes. Frédéric Poma, le maire de la commune, a décidé de verbaliser les contrevenants jusqu'à 3000 euros d'amende. Ça peut en tout cas aller jusque-là. Il va nous expliquer sa position. C'est dans un instant sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
8h16, ce matin, nous allons à Tourettes-sur-Loup, nous sommes dans les Alpes-Maritimes, à Tourettes-sur-Loup, où il leur a suffi de 2 propriétaires privés pour vider en 2 heures 80% d'un bassin d'eau qui alimente le village, 80 mètres cubes partis. Pourquoi ? Pour l'arrosage de jardins privés. Nous sommes en pleine période de sécheresse. Bonjour Frédéric Poma.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Tourettes-sur-Loup. Combien d'habitants aux Tourettes-sur-Loup ?
Écoutez, on est à 4500 habitants à l'année, mais la caractéristique, c'est que comme nous sommes une commune touristique, eh bien, du 1er juillet au 31 août, la population est multipliée par 3 puisqu'on passe à 13 000 habitants.
De 4500 à 13 000 habitants. Racontez-nous ce qui s'est passé chez vous il y a une semaine.
Eh bien, on a un bassin qui alimente une cinquantaine de propriétés. Et donc, on a été alerté. Pardon ?
En eau potable.
En eau potable, absolument. Et on a été alerté par notre fournisseur d'eau que le bassin, en 2 heures, était vidé de manière très problématique. Et que si ça continuait, on allait devoir couper l'eau. Et donc, aujourd'hui, l'avantage, c'est que tous les compteurs de la commune sont connectés et donc ils ont pu très rapidement identifier les deux propriétés qui posaient problème.
Donc vous êtes allé sur place ?
Alors donc, dans un premier temps, le prestataire est allé sur place pour informer qu'il y avait une consommation anormale. Et puis moi, ensuite, j'ai envoyé la police municipale un petit peu plus tard, oui.
Et qu'est-ce qu'ils ont constaté ?
Eh bien, autant sur la première propriété, tout était rentré dans l'ordre, autant sur la deuxième, le jardinier était encore en train d'arroser. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai pris la décision de verbaliser.
Donc toute cette eau était en train de partir parce que deux propriétaires, en tout cas deux jardiniers, étaient en train d'arroser leur jardin.
Oui, vous avez raison, vous aviez deux propriétés qui mettaient à mal, qui mettaient en difficulté une cinquantaine de résidences.
50, je le répète, parce que moi, ça, je suis un peu halluciné. C'est-à-dire que 50 propriétés, 50 maisons, 50 de vos administrés, foyers, ont été sur le point d'être privés d'eau potable parce que deux jardiniers arrosaient leur jardin.
Exactement.
Bah, ils devaient le faire de manière intensive.
Oui, vous savez, on est une très belle commune, donc il y a des très très belles maisons, et qui dit très belle maison dit très beau jardin. Mais là aujourd'hui, ils étaient un petit peu dans l'exagération. Ce sont pour la plupart des étrangers qui ne connaissent pas nécessairement les problématiques françaises. Donc voilà.
Qu'est-ce que vous a dit le deuxième jardinier, celui qui a été un peu récalcitrant?
Ben écoutez, il a fait mine de pas savoir, mais quand on lui a dit, écoutez, on est déjà passé une première fois pour vous alerter, là on revient, et alors qu'on est dans une situation vraiment très problématique, voilà, maintenant on arrête de discuter.
Et donc vous avez infligé une amende?
Oui.
Une amende de combien?
Alors, l'amende, comme c'est un arrêté préfectoral qui est en cause, elle peut aller jusqu'à 1 500 €, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, en cas de récidive, jusqu'à 3 000 €.
Et là, vous avez infligé une amende de combien?
Alors écoutez, après moi je passe la main, donc je sais pas, puisque c'est un arrêté préfectoral.
D'accord.
Mais l'amende peut aller jusqu'à 1 500 €.
Le vrai problème, et c'est un enjeu qui est devenu aujourd'hui majeur, parce que les périodes de sécheresse se multiplient. On connaît actuellement une période de sécheresse record, mais on le sait, monsieur le maire, que ce n'est que le début. Le vrai problème, c'est que dans votre commune l'été, il y a beaucoup de monde. Alors, c'est un avantage aussi, on va pas se plaindre du tourisme et de l'apport financier que ça vous amène, mais c'est qu'il faut que chacun se raisonne et que chacun prenne conscience de la question.
Oui, après, il faut pas généraliser. Ce sont deux personnes sur les 13 000 personnes qu'il y a sur la commune. On est quand même dans un endroit où les gens sont sensibilisés déjà à cette problématique de l'eau. On sait que c'est vraiment le 15 août qui est le pic de consommation. Nous, on a lancé plusieurs alertes. Et aujourd'hui, la situation, elle est redevenue normale. Ça veut dire que vraiment, les gens, les administrés ont conscience de ce problème. Et c'est ça qui est important.
Et vous aviez déjà connu ce type de situation en 2023, c'est ça ?
Exactement, en 2023, on a eu une première alerte sécheresse, ce qui déjà, moi, m'avait permis de demander à notre prestataire de fournisseur d'eau de me faire la liste des 100 premiers, des plus gros consommateurs d'eau. Et en fait, une famille moyenne, elle consomme entre 200 et 250 mètres cubes par an. Mmh. Et là, le number one était à 12 000 mètres cubes. Donc, il a vraiment fallu sensibiliser les gens en disant, là, c'est trop, quoi.
Donc, les gros consommateurs dont vous me parlez, la liste des 100, vous les avez contactés, vous les avez alertés, en tout cas sensibilisés.
Absolument, on leur a envoyé un courrier. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu des retours et de gens qui nous ont remerciés parce qu'en fait, il y avait beaucoup de fuites. Vous savez, la fuite, c'est vraiment le point noir pour le réseau communal ou pour un réseau privé. Et moi, par exemple, à l'entrée de ma maison, j'ai le compteur, et pour arriver jusqu'à la maison, il y a 200 mètres. Donc forcément, il peut y avoir des fuites. Et il y a eu des propriétaires qui nous ont dit « Non, mais on a détecté des fuites dont on ne soupçonnait pas l'existence. »
Donc tout ça, c'est très positif, cette mobilisation de la part de la commune.
Absolument, moi je suis très satisfait du comportement et de la prise de conscience des administrés.
Merci Frédéric Poma d'avoir été avec nous, maire de Tourrette-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes, et belle journée à vous. RMC, 8h21, Pierre Rondeau est avec nous. L'économiste d'RMC, Pierre Rondeau, le chômage des jeunes s'est dégradé et c'est un constat partout dans le monde, c'est international.
Constat international, Rémi, oui. Dans un rapport récent, l'Organisation internationale du travail pointe une situation inquiétante pour les 15-24 ans à travers le monde. Dans l'ensemble des pays développés, le taux de chômage des 15-24 ans a atteint 12,4% en 2025 contre 12,3% en 2024, soit 67 millions de jeunes sans emploi. Pire encore, la part des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation a aussi augmenté pour atteindre 20%, soit plus de 257 millions de personnes, du jamais vu dans l'histoire récente.
Pierre Rondeau, comment l'expliquer ?
Alors d'abord, les explications évidentes, le ralentissement de la croissance économique ou encore les tensions géopolitiques qui perturbent grandement les marchés. Mais un nouvel élément apparaît dans l'analyse, l'essor de l'IA, de l'intelligence artificielle. Cette montée en puissance transforme les perspectives de l'emploi des jeunes. Ces jeunes encore inexpérimentés se retrouvent mis en concurrence avec des intelligences artificielles plus compétentes, plus performantes, plus productives. Des emplois intermédiaires qui étaient jusqu'ici la porte d'entrée du marché du travail pour les jeunes, comme les secrétaires et assistants administratifs, les téléconseillers, les agents de centre d'appel, les techniciens, les développeurs informatiques ou les conseillers bancaires. Tous ces emplois disparaissent progressivement, remplacés par l'IA. Pour vous donner un exemple, moi-même, étudiant, je travaille dans une banque, j'étais chargé de classer les dossiers clients, et bien ce service a été maintenant intégralement remplacé par de l'IA.
Que peut-on faire ? Y a-t-il quand même des motifs d'espoir ?
Alors heureusement, il y a des emplois qui résistent encore et toujours à l'intelligence artificielle, notamment dans le secteur social, les métiers de l'humain et de la santé, les médecins, infirmiers, aides-soignants, kinés, psychologues, éducateurs spécialisés, ils ne seront jamais remplacés par de l'IA. Idem côté artisanat, les métiers manuels qualifiés, voire ultra qualifiés, dans le luxe, dans le sur-mesure, dans les pièces uniques, et même pour les techniciens du bâtiment, une IA sera bien incapable de remplacer un plombier ou un électricien. Mais pour assurer ces métiers et garantir aux jeunes une perspective d'avenir positive, il faut resserrer les liens entre l'enseignement supérieur et le monde professionnel, renforcer les passerelles, renforcer l'alternance et l'apprentissage, parce que la situation, oui, s'est vraiment détériorée.
Un point sur les prix des carburants, comme tous les matins.
Alors, ça augmente, hein, le litre de 95, 1 euro. Alors, on est passé sous les 2 euros, mais ça augmente par rapport à hier. 1,979 € pour le 95, le gazole, 2,176 €, le baril de pétrole, il baisse légèrement à 87,56 € et le gaz à 60,49 €.
Merci beaucoup Pierre Rondeau. On va se détendre un peu à présent. Il est en vacances, mais on a son meilleur avec nous, Arnaud Demanche.
Le géant français de l'informatique Capgemini a annoncé la mise en vente de sa filiale américaine qui aide la fameuse police américaine de l'immigration à localiser les migrants.
Et ça a fait scandale. Rendez-vous compte, une société française qui vend des choses ignobles autour du monde. Comme si la vache qui rit ne suffisait pas. Qu'est-ce qu'on a fait au monde, hein ? Les membres du gouvernement ont fait les vierges effarouchées en disant « Que huit ? Que non ? Nous vendons des services pour nuire à l'être humain, nous les Français ?» Le peuple des Lumières. Les Mirage 2000 qu'on vend au pays du Golfe, c'est pas juste pour faire joli dans les défilés. Hein. Les 5 sous-marins qu'on a vendus au Pakistan, ils sont pas là pour étudier la reproduction des poulpes dans l'océan Indien.
Ah
c'est
bon
pas leur priorité. Ah non, alors que c'est fascinant, Apolline. Fascinant.
Le poulpe dominant pointe de manière ityphalique son ectocolite qui sert d'organe copulateur afin d'introduire les gamètes dans la femelle poule. J'arrête, hein, je vois bien que j'excite tout le monde.
L'eurodéputée Marion Maréchal a déclaré qu'elle ne croyait pas que son grand-père, Jean-Marie Le Pen, était antisémite.
Oui, elle a dit « Est-ce que les condamnations sondent le cœur des hommes ? Je ne crois pas. » Heureusement qu'elle n'est pas avocate. Hein. Monsieur le juge, est-ce que les condamnations de mon client, Francis Holmes, sonde réellement son cœur, qui n'est que fragilité et sensibilité, n'est-ce pas, Francis ?
Marion, est-ce que tu buzzes ?
Oh. Alors, Jean-Marie Le Pen avait une maison de disques qui éditait des chants nazis et disait que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Mais vous connaissez les gens, Apolline, ils voient le mal partout. Voilà. Si ça se trouve, Jean-Marie Le Pen rêvait secrètement d'être investi par LFI aux élections. Mais après, on n'est jamais vraiment objectif quand ça concerne sa famille. Louis Sarkozy pense que son père est innocent. Jésus pensait que sa mère était vierge. Éric Ciotti, son père Jean-Claude Duss, il pensait qu'il allait conclure. On se fait avoir tout le temps.
Allez, dans un instant, la météo, le journal sur RMC, RMC Story. Et puis, les pompiers sont en grève aujourd'hui. On refuse d'être des héros qu'on laisse sans moyens. Le lieutenant-colonel Alain Larata, secrétaire général du syndicat Avenir Secours, est notre invité dans un instant. La colère des sapeurs-pompiers, leur ras-le-bol, leur souffrance également. C'est dans un instant sur RMC et sur RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Gouidz. Clément, ça chauffe dans les bus de la RATP en Ile-de-France.
Un sur deux n'est pas climatisé selon Force Ouvrière et les chauffeurs et passagers au bord du malaise. Le Pas-de-Calais à son tour frappé par les incendies, près de 200 hectares brûlés sur le littoral et 200 campeurs évacués. RMC est allé à leur rencontre. Et un nouveau prodige français dans les bassins, le nageur sauveur Cristofini, aligné ce matin sur les séries du 200 mètres au championnat d'Europe.
Une nouvelle journée caniculaire.
La quasi-totalité de la France est en vigilance orange et demain sera également le cas, comme nous l'a annoncé en début de ce journal Charlène Villemer. Il fait déjà 24 degrés à Rennes, Toulouse, 25 degrés à Paris, où près de la moitié des bus de la RATP sont devenus de véritables fournaises privées de climatisation, selon FO. Les chauffeurs et usagers suffoquent, comme vous avez pu le constater, Célestin Bougère, dans le Val-de-Marne.
Je monte dans le bus 180, direction Charenton. Il fait déjà 35 degrés à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est encore pire.
Si à l'extérieur, il fait 35, donc à l'intérieur, doit avoisiner les 40-45 degrés.
Derrière le volant, Bruno sue à grosses gouttes. Le soleil tape sur son tableau de bord.
Quand on roule, sous des chaleurs pareilles, c'est intenable. J'ai la cinquantaine et j'accuse de la fatigue. S'il y a un peu de fatigue, il peut aussi avoir un peu de manque de concentration sur la conduite.
Ça peut même devenir dangereux.
On peut représenter un danger pour les passagers.
Pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
On a des serviettes rafraîchissantes. On a des gourdes d'eau, mais moi, c'est mon avis personnel, c'est de mettre la climatisation dans les bus.
À l'arrière, je m'installe à côté de Fatima, une retraitée.
On voit justement essayer de faire de l'air.
Oui, pour moi et pour mon petit chien.
Il est seul, pauvre.
Moi, je suis âgée, hein. Bien sûr, c'est dangereux.
Derrière nous, Marie, une étudiante en médecine, a sorti son petit ventilateur portatif.
Ah bah, il vient de tomber en panne.
Quand c'est bondé, quand il n'y a pas la clim, c'est vraiment insupportable.
En arrivant au terminus, Bruno, le conducteur, se précipite dans la salle de repos.
Je suis obligé d'aller boire minimum 2 ou 3 verres d'eau.
Les chauffeurs réclament également la fin des 6 jours de travail de suite pendant ces périodes de canicule. Île-de-France Mobilité assure que tous les bus seront équipés en climatisation d'ici 2030.
On respire mal en Île-de-France. Pollution à l'ozone en raison des fortes chaleurs. La préfecture abaisse aujourd'hui la vitesse de 20 km/h.
Et décidément, cet été, le feu n'épargne aucun département.
C'est le littoral du Pas-de-Calais qui s'embrase depuis hier. 180 hectares parcourus par les flammes et 1200 campeurs évacués. Une évacuation en urgence qui a forcément, Caroline Renaud, marqué les esprits.
Sa caravane à peine installée, les vacances ont démarré par une grosse frayeur pour Aurélia.
Il y avait une forte odeur de cramée, énormément de fumée, les cendres tombaient au niveau de notre campement. On se dit, ça tombe, c'est peut-être pas une cendre, ça peut être une braise.
De quoi faire paniquer ses enfants.
La plus grande commençait à pleurer, maman j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer. On avait peur que du coup ça se rapproche de plus en plus de nous en fait.
Alors elle n'a pas attendu l'ordre d'évacuation pour plier bagages, comme Jérôme, dès les premières fumées.
J'ai attelé ma caravane et on est parti quoi.
Parti en urgence d'une région qu'il pensait pourtant épargnée par les incendies.
J'aurais pas cru que ça serait arrivé là-bas, quoi. Dans le Nord, pour moi, j'ai jamais connu ça. C'est à côté du Touquet, enfin, on dit qu'il y a pas de risque, quoi.
Même étonnement pour Coralie, venue passer 2 jours à la mer.
On entend ça aux infos et c'est plus, tout ce qui est en Gironde, etc. Enfin, on se dit la mer du Nord. Normalement, c'est pas la région là où il y a le plus de sécheresse et où il fait le plus chaud, quoi.
Tente démontée cette nuit, elle ne finira pas son séjour au camping malgré la levée de l'évacuation. Mes enfants ne seraient pas sereins, dit-elle.
Et ça brûle également en Ille-et-Vilaine, près de Rennes, plus de 200 hectares brûlés et 100 de personnes évacuées, annonce la préfecture. Ras-le-bol chez les pompiers. Une grève aujourd'hui pour alerter sur les mauvaises conditions de travail. Justement, une réunion est prévue ce midi avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes.
RMC, il est 8h33, si je ne me trompe pas, le protoxyde d'azote, le gaz hilarant, autrement dit, a fait une victime à Marseille.
Un adolescent de 17 ans qui avait été hospitalisé après avoir déclaré avoir consommé du protoxyde d'azote, gaz consommé par les jeunes à des fins récréatives, a été retrouvé mort à son domicile au lendemain de sa sortie de l'hôpital Lou Garnier.
Oui, il a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire chez lui à la Castellane, une cité située dans les quartiers nord de Marseille. À la fin du week-end, il avait été pris en charge aux urgences après avoir consommé une quantité importante de protoxyde d'azote, gaz parfois utilisé comme drogue euphorisante avec de graves conséquences pour la santé. L'adolescent est sorti de l'hôpital lundi. Il semblait aller bien, rapporte une source policière. Quelques heures plus tard, le jeune homme de 17 ans décède. Pour le moment, il n'y a pas de corrélation définitive entre sa consommation de gaz hilarant et son décès, selon les autorités. Une autopsie a été demandée et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de sa mort, précise le parquet de Marseille.
2 morts et 41 cas de légionellose en Savoie. L'alerte sanitaire est prise au sérieux, notamment autour de Chambéry. L'origine des contaminations reste inconnue et des analyses sont en cours pour tenter d'identifier la source.
C'est un nageur français à suivre. Il s'appelle Sauveur Cristofini et ce sera à suivre ce matin.
Il est aligné sur les séries du 200 mètres nage libre au championnat d'Europe. Le nageur français de 17 ans est annoncé comme un nouveau phénomène, Julien Richard.
3,47-57.
Oui, et même Léon Marchand est bluffé.
Un nageur qui est hyper impressionnant. Franchement, ce qu'il fait à l'entraînement, c'est... je pense pas que j'ai vraiment vu ça autre part. C'est vraiment cool de voir ça. Il est très sérieux, très rigoureux. Il est encore très jeune, donc il a énormément de marge de progression.
Lundi, avec le relais 4 x 200 mètres nage libre en argent lancé par Léon Marchand, Sauveur Cristofini est devenu à 16 ans le plus jeune Français médaillé dans un championnat d'Europe.
Ah bah c'est cool, je savais pas.
Pas de quoi perturber l'introverti marseillais qui culmine déjà à 1,90 m.
Non, pas trop, parce que je reste un peu dans ma bulle. Enfin, ça va, je pense que je gère assez bien la pression. Concentré, ce qui m'inspire, c'est plutôt la gaine.
C'est avec Philippe Lucas, l'ancien mentor de Laure Manaudou, qu'il a éclos. Et depuis 3 mois, il s'entraîne à Marseille.
C'est un nageur qui va devenir, à mon avis, très très fort.
Avec Franck Esposito.
Il y a des exceptions comme ça dans la natation. Ben, c'est un plaisir des yeux. Hein. Un garçon attachant, très bien élevé par papa-maman. Sauveur, il est dans son monde. Il vit sa natation, mais c'est aussi Sauveur, c'est aussi un nageur exceptionnel.
À Saint-Denis, Sauveur Cristofini pourrait passer un premier cap sur la route des Jeux de Los Angeles.
On suivra également aujourd'hui Maxime Grousset sur la finale du 100 mètres papillon. C'est à 18h30. Les championnats d'Europe de natation, c'est à suivre sur RMC, antenne spéciale de 18h à 20h en direct du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis. Un nouveau trophée pour le PSG, la Super Coupe d'Europe, deuxième année consécutive que les Parisiens soulèvent ce trophée. Ils se sont imposés hier 2-1 face à Aston Villa.
Et puis les courses, Clément, les courses RMC, c'est à l'hippodrome de Deauville, ce sera en nocturne à 20h15.
Le pronostic de Frédéric Kita, son favori le 2, Rêve Bleu, son outsider le 3, Think for the Hot.
Merci beaucoup Clément. Le prochain journal, ce sera à 9h, RMC 8h36. Des messages, Victor Porcher, sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
Et notamment en réaction à cette grève des pompiers aujourd'hui, on a Maryse d'abord qui nous envoie son point de vue de maire de pompier de Paris, appelé en Gironde, et qui nous dit que son fils lui a dit que la grève finalement pouvait attendre, que c'est pas forcément le bon moment. C'est ce que nous avait dit aussi Julien, en nous disant que c'était un moment sensible. Eh bien, on a une réponse à ça aussi dans les messages sur le WhatsApp RMC. On a Brice qui dit oui, mais s'ils font grève à des moments où ça ne marque pas dans l'actualité, ils ne seront malheureusement pas entendus. On a aussi Christian qui nous dit, eh bien, ils ont bien raison, ces pompiers, de se faire entendre, sachant qu'en plus, dans la majorité, ils sont volontaires et ils ont montré, nous dit Christian, que les moyens manquaient alors qu'ils ont tout fait pour sauver des vies et des maisons. On leur doit beaucoup et ce métier devrait être entièrement professionnalisé. C'est ce que nous dit Christian sur le WhatsApp RMC.
Et je rappelle que le lieutenant-colonel Alain Larata, secrétaire général du syndicat Avenir Secours, de syndicat de sapeurs-pompiers, sera avec nous à 8h45. Il est déjà avec nous en studio et on va donc pouvoir parler longuement de cette colère, de ce ras-le-bol des sapeurs-pompiers. Dans un instant, c'est le choix de la rédaction. Comment faire garder son animal de compagnie pendant les vacances? C'est souvent le casse-tête de l'été, ça coûte cher. C'est tout de suite sur RMC et sur RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
RMC, il est 8h39. Bah oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire du chien? Bah oui, bah je veux bien partir, mais qu'est-ce qu'on va faire du chat? Vous avez peut-être déjà été confronté à ce petit casse-tête, surtout à l'approche de l'été. Comment faire garder son animal de compagnie durant les vacances? Plus de la moitié des Français auraient un animal de compagnie. Alors comment faire? L'emmener avec soi ou trouver quelqu'un pour s'en occuper durant son absence? Heureusement, les solutions ne manquent pas. Chenille, chatterie, pet-sitting, à l'image d'un baby-sitter pour animaux. Mais ces modes de garde peuvent rapidement faire grimper la facture, Léonie Guibaud.
La litière, les croquettes, la fontaine à eau, des petits griffoirs, histoire qu'elle se défoule un peu.
À quelques jours de son départ en vacances, il a acheté tout le nécessaire pour sa chatte Roquette qu'il confie à sa sœur.
C'est de l'organisation, prévoir le stock suffisamment pour que déjà la personne, elle, ne subisse pas les frais. Donc c'est pas son animal, c'est bien.
Un vrai casse-tête aussi pour Serge. Il n'a trouvé personne pour garder ses deux chiens. Seule option, le chenil, et il s'y est pris 3 mois à l'avance pour avoir le choix.
On préfère privilégier quand même un endroit où il y a beaucoup d'espaces verts avec des très très bons commentaires. Voilà. Puis on se fie aussi la personne au téléphone, ou si on sent pas la personne, on va pas forcément les laisser.
Il a donc opté pour la Normandie, quitte à faire plusieurs heures de route avant et après les vacances pour aller récupérer ses deux compagnons. Son chihuahua serré contre lui, il le répète, il veut le meilleur traitement pour ses deux chiens et ne regarde pas à la dépense.
Par chien, c'est dans les 1500. Pour les deux, ça peut aller à 3000 sur un mois. Parfois, il y a des formules avec des cages plus grandes. Il y a plein d'options au niveau de la nourriture, tout.
Delphine, elle aussi, a déjà laissé son animal en pension pour une quinzaine d'euros par jour.
Bah, c'est sûr que c'est un peu plus cher, mais bon, au moins, quand on est tout seul et qu'on n'a pas le choix, c'est mieux. Et puis, ils nous envoient des petites photos aussi pour nous dire « Ah, aujourd'hui, ils ont fait ça, ils sont contents. »
Mais pour elle, c'est toujours un stress de laisser son animal à un inconnu.
C'est laisser un membre de sa famille. Je me sens mal de partir sans elle, mais bon, je peux pas partir avec.
David, lui, préfère ne jamais confier sa border collie de 6 ans à qui que ce soit.
Manque de confiance aussi dans les dog sitters. J'habite à côté du bois de Boulogne et je les vois, ils sont souvent des hordes de chiens, 6-7, et je trouve pas qu'ils font très attention justement à chacun des animaux. Donc, on la garde avec nous. Personne ne l'a.
Rien d'étonnant pour Chrisland Bélivier, éducateur canin. 20% de sa clientèle vient le consulter après des mauvaises expériences en chenil.
Pas mal de chiens qui régressent en termes de malpropreté parce que le chien était exposé à trop de chiens, trop de stress.
Et pour éviter ces mauvaises surprises,
le mieux c'est de pouvoir aller sur place, observer tout simplement la qualité du matériel, des locaux, voir si les box sont propres. Est-ce qu'il mélange tous les chiens ou alors ce qu'il sépare en fonction des gabarits? Quel est le temps de sortie et de socialisation des chiens?
Dernier conseil, ne pas hésiter à faire un test sur une journée ou un week-end avant de laisser votre animal pour toutes les vacances.
RMC 8h42, ils sont en grève aujourd'hui en plein cœur de l'été. Les 9 syndicats de sapeurs-pompiers dénoncent le délitement de la sécurité civile et refusent que le mot héros masque le manque de moyens. Bonjour, lieutenant-colonel Alain Larata, vous êtes le secrétaire général d'Avenir Secours.
Bonjour Rémi.
Merci d'être avec nous. Vous serez reçu à midi par le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, mais vous passez d'abord par le studio d'RMC. Merci encore d'être là. Qu'allez-vous demander au ministre? Vous nous répondez dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 8h46. Les pompiers sont en grève aujourd'hui. Appel à une grève nationale lancée par leurs neuf organisations syndicales. Après un été noir, près de 120 000 hectares brûlés depuis janvier, 4 pompiers morts et au moins 129 intoxiqués. Ils dénoncent le délitement de la sécurité civile et refusent que le mot héros serve à masquer le manque de moyens. Le lieutenant-colonel Alain Larata, secrétaire général du syndicat Avenir Secours, est avec nous. Alain Larata, avant tout, je voudrais vous faire écouter ce que disait mardi sur RMC et RMC Story Jean-Didier Berger, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, sa réponse sur le manque de moyens que vous dénoncez. On l'écoute.
Dans notre pays, il y a aussi beaucoup de moyens qui ont été mis sur la table ces dernières années. On a purement et simplement doublé le nombre d'engins aériens à disposition des pompiers. Il y a 500 nouveaux engins qui ont été livrés, donc beaucoup de camions neufs. On a la chance d'avoir dans notre pays des conditions exceptionnelles de sécurité civile parce qu'on a mis beaucoup de moyens sur la table.
Bon, quand on entend ça, lieutenant-colonel, on se demande pourquoi vous appelez à la grève aujourd'hui ?
Mais on appelle à la grève pour justement aller contrer ce genre d'affirmation. Vous savez, cette méthode couée qu'on entend continuellement depuis le début de l'été. Vous avez dit on est à la fin de l'été. Non, on est au milieu du gué. Tout n'est pas terminé. Donc on entend ce genre de discours, comme on a pu entendre l'intervention du président du conseil départemental de Mayenne il y a quelques jours. Méthode couée, tout va bien, on a assez de tout. C'est vraiment démontrer qu'il y a une déconnexion entre le monde politique et la réalité opérationnelle.
Est-ce que c'est une déconnexion ou un mépris?
Oh, je crois que pour le premier, c'est une déconnexion. Il vient d'arriver, il est sur un territoire où je ne crois pas qu'il y ait des feux de forêt. Il est en poste depuis le mois d'avril, je crois. On l'a jamais rencontré.
Mais là, je parle du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur.
Oui, bah écoutez, on le découvre. On n'a jamais eu affaire à lui. Et habituellement, le ministre délégué a plutôt en charge la sécurité civile. Je ne crois pas qu'on ait eu à le rencontrer, en tout cas. Mais vous savez, cette forme de déconnexion, c'est ce qui crée aujourd'hui la colère. Parce que on pourrait être en colère aujourd'hui parce que des promesses n'auraient pas été tenues. On n'en est même pas au stade de la promesse. On en est au stade d'un déni depuis des années. Où vous savez, les engagements, les belles paroles qu'on entend en fin d'année dans nos cérémonies de commémoration de Sainte-Barbe ou lors des hommages rendus aux sapeurs-pompiers morts en service commandé. Je veux dire, tous ces événements-là, ça craint la pluie, et dès que on ne pense plus aux feux de forêt, ben on pense plus aux pompiers. Alors que nous, notre message, il est d'abord de dire que la problématique, elle est du 1er janvier au 31 décembre. L'intersyndicale, c'est depuis le mois d'avril, on n'a pas attendu les feux en Gironde.
J'y reviens, encore une fois, j'insiste, est-ce que vous vous sentez actuellement méprisé par le gouvernement?
Écoutez, nous, on a fait un job, me semble-t-il, d'organisation syndicale responsable. On a fait une grève pour contraindre le ministre de l'Intérieur de nous recevoir. Je crois pas dans son agenda, c'était prévu que le 13 août, il nous rencontre. Il le fait, c'est le code du travail, et je crois peut-être un peu de conscience de sa part. On le verra, on l'entendra d'ici quelques minutes.
Mais concrètement, vous allez lui demander quoi?
On va lui rappeler une nouvelle fois qu'on est dans une passe historique où 100% des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques spécialisés, ne les oublions pas. Quand les pompiers sont au feu, c'est parce qu'il y a aussi des équipes soutien et des services qui sont là pour consolider nos actions sur le terrain. On va lui dire qu'il a une nouvelle fois la possibilité de faire voter une loi qui va pouvoir modifier un petit peu notre champ missionnel. Je vous disais que c'est entre le 1er janvier et le 31 décembre. On a 80% de nos missions, c'est du secours d'urgence aux personnes. Mmh. On traite aujourd'hui le pré-hospitalier, Rémi. C'est pas notre job. Nous, c'est l'urgence. C'est pas amener Madame Michu à l'hôpital parce qu'il y a personne, ni de sa famille, ni des services de transport privé qui sont disponibles pour le faire. Il y a tout un de missions parasites qu'il faut éliminer. Ça grève les budgets des services d'incendie et de secours. Ça ne nous permet plus de faire des recrutements. Ça ne permet même pas d'assurer la protection respiratoire de nos sapeurs-pompiers. Je vais revenir, si vous me permettez, sur la déclaration du ministre. Très intéressant. Mmh. Qu'il regarde sur les statistiques et en tout cas que ses services lui préparent. En 20 ans, on a perdu 1000 camions. En 20 ans, on a perdu 1000 camions citernes feux de forêt. Le pacte capacitaire de l'État, c'est 150 millions sur 3 ans. On pourrait dire c'est énorme. Il y a 102 services d'incendie et de secours. Un camion, ça vaut entre 350 000 et 450 000 euros. Et quand on a mis un camion neuf, on en a mis deux à la poubelle parce qu'ils étaient pourris depuis des années. Donc moi, je veux bien le discours angélique ou de toujours considérer la méthode Coué, tout va bien, il va pas nous dire que c'est le bazar, il vient d'arriver. Ouais. Mais en attendant... Mais
ça va même plus loin que ça, parce que la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, dit que dire que les moyens n'ont pas augmenté depuis 2017, c'est ce qu'elle dit, c'est un mensonge éhonté.
Éhonté, bah écoutez, je lui renvoie ce compliment, puisque elle parle peut-être en brut, en net, la réalité, c'est que quand un service d'incendie et de secours a acheté un camion neuf avec une participation de l'État, il faut pas le négliger, eh bien c'est un à deux, voire trois camions qui sont passés au rebut parce qu'ils n'étaient plus à la norme, ils n'assuraient plus la sécurité. Nous fêtons le 10e anniversaire d'un drame absolument abject qui a eu lieu dans le département de l'Hérault où un collègue a perdu la vie et des collègues ont été très gravement brûlés. C'est le feu de Gabian. Vous savez, on a mis au pilori et on a condamné uniquement le directeur départemental à 2 ans de prison. Les autres acteurs de la sécurité civile dans le département n'ont absolument pas été inquiétés. Donc aujourd'hui, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Nous, on prend les nôtres. Tous les jours, on agit, que les politiques prennent leurs responsabilités, enfin.
Je le rappelle, les sapeurs-pompiers sont des personnels essentiels. Aujourd'hui, vous appelez à la grève, mais forcément, vu les circonstances, les pompiers seront sur le terrain pour défendre les populations et les biens. C'est le cas notamment en ce moment dans le Pas-de-Calais, du côté de Sainte-Cécile, d'Ardelot, de Danne. Mais j'imagine qu'on le sent, la colère, elle est là. Si on ne vous répond pas positivement aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, est-ce que, une fois l'été passé, vous appellerez à nouveau à des mobilisations?
Bah écoutez, aujourd'hui, c'est peut-être une phase où on va recueillir des engagements. Mmh. Le ministre de l'Intérieur a une opportunité. On croit savoir qu'il a quelques annonces à nous faire. N'insultons pas l'avenir. Si ces engagements ne sont pas tenus, dès les premiers jours de septembre, nous prendrons là aussi nos responsabilités. On sait très bien que les engagements et les promesses, lorsqu'il y en a, elles craignent la pluie, comme on dit chez les sapeurs-pompiers. Donc on verra. On a effectivement d'autres actions en préparation. On va maintenir la pression, parce que la pression opérationnelle est toujours là. Nous aussi, on va maintenir notre pression.
Vous pensez que quels engagements peut prendre là le ministre? Vous avez déjà des informations là-dessus ou pas?
Que le projet de loi Beauvau, qui est quand même issu de 18 mois de réflexion, on a refait la sécurité civile pendant 18 mois. Tout est sur la table. Des missions flash, des rapports parlementaires, des audits. Tout est sur sa table pour construire une loi de modernisation de sécurité civile dès l'automne. Charge aux sénateurs et aux députés de s'emparer de ce texte, de le voter. Et puis, il y a un deuxième texte, c'est le projet de loi de finances. C'est là où il faudra aussi mettre les moyens. Parce que si on n'a pas plus de moyens, on aura toujours autant de colère.
Merci beaucoup, lieutenant-colonel Alain Larata, d'avoir été avec nous, secrétaire général du syndicat de sapeurs-pompiers Avenir Secours. Merci. Dans un instant, les GG en direct sur RMC, RMC Story, 9h midi. Bonjour Alain Marchal.
Bonjour à tous. Dans un instant, donc, les grandes gueules avec la coach de vie Joël Dagosséry, l'avocate Sandrine Pégan, et puis nous serons avec Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie. On reviendra sur ce qui s'est passé à la fois à Toulouse et à Épinal. Vous savez, Toulouse, c'est l'attaque au couteau contre les policiers municipaux. Et à Épinal, il y avait un type avec un couteau de boucher de 25 cm qui était en plein milieu de la rue, comme ça, à se balader, à regarder un peu les passants. Et hier, j'ai échangé avec un ami, il ressort, il me dit, je te jure, ça me fout la trouille. Vraiment. Et il me dit, qu'est-ce que je mets dans ma poche et qu'est-ce que je mets dans mon sac? Alors, est-ce que ça vous fout la trouille? Est-ce que ça vous fait réfléchir? On en parlera, bien sûr, avec vous au 32-16. On reviendra sur ce que dit François Bayrou. Pour lui, un deuxième tour Rassemblement National France Insoumise, c'est le chaos et la division en France. Est-ce qu'il a raison? On reparlera de la colère des pompiers. On leur ouvrira le 32-16, bien sûr. Et puis, on s'intéressera à l'affaire Epstein avec deux plaintes pour déni de justice contre la justice française. Est-ce qu'on cherche à freiner les enquêtes sur l'affaire Epstein en France? C'est au 32-16.
Merci beaucoup Alain, les grandes gueules tout de suite sur RMC, RMC Story, et nous on se retrouve demain dès 7h. À demain.